Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette merveilleuse série concernant « J'ai choisi Jésus-Christ ». Chers amis, il nous faut vraiment à tous un sauveur. Il me faut en tout cas, pour moi, comme pour vous, un sauveur. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas vers Jésus-Christ qui est seul absolument capable de faire face aux besoins de l'âme? Que doivent aller tous ceux, c'est là que doivent aller tous ceux qui recherchent le sentier de la paix. En effet, car l'ami des pécheurs conduira pas à pas et dans le chemin de la vérité, celui et celle qui a faim et qui a soif de justice, le ou la plaçant ainsi au bénéfice des bénédictions qui découlent d'un complet abandon à son merveilleux service. Chers amis, bien des âmes troublées, oh oui, trouveront dans ces études le réconfort et l'espérance et s'avanceront dans la vie avec plus de confiance et une joie sans cesse renouvelée. Oui, voyez-vous, la nature et la révélation témoignent de concert en faveur, oui, en faveur de l'amour de Dieu. Et notre Père Céleste est l'auteur de la vie, de la sagesse et de la joie. Contemplez les merveilles de la nature, constatez leur parfaite adaptation aux besoins et au bien-être non seulement de l'homme, mais aussi de tout être vivant. Le soleil et la pluie qui égayent et rafraîchissent la terre, les montagnes, les mers, les plaines, tout nous parle de l'amour du Créateur. C'est Dieu qui subvient aux besoins quotidiens de toutes les créatures. Ces belles paroles du psalmiste rendent hommage à sa touchante sollicitude. C'est le psaume 145, versets 15 et 16, où il est dit « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main. » Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. En effet, Dieu créa l'homme saint, il l'a créé parfaitement heureux, et notre terre, au sortir des mains du Créateur, ne portait pas la moindre trace de corruption, ni la plus légère ombre de malédiction. C'est la transgression de la loi de Dieu, loi d'amour, qui a été la cause de la mort et de tous les maux. Néanmoins, voyez-vous, l'amour divin se manifeste au sein même de la souffrance. Il est écrit qu'à cause de l'homme, le sol a été maudit. Les épines et les chardons, les difficultés et les épreuves qui font de notre pèlerinage terrestre une longue succession de labeurs et de soucis nous ont été départis pour notre bien. Ils entrent dans le plan d'éducation que Dieu a formé pour nous relever de l'état de dégradation et de ruine dans lequel le péché nous a plongés. Quoique déchu, le monde n'est pas tout tristesse et souffrance. La nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. On voit des fleurs s'épanouir sur les chardons et des roses éclore sur des épines. Dieu est en effet amour. Et ces paroles se trouvent inscrites sur chaque bouton de fleur et sur chaque brin d'herbe. les charmants oiseaux qui égayent les airs de leurs chants joyeux. Oui, les fleurs aux nuances délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leurs doux parfums, les arbres gigantesques et les forêts aux riches feuillages, tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de son désir de faire le bonheur de ses enfants. La Sainte Écriture révèle son caractère. Oui, Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion et son amour infini. Voyez-vous, quand Moïse lui adressa cette requête, « Fais-moi voir ta gloire !» Eh bien, l'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et passant devant Moïse, il s'est écrié, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, il est lent à la colère et riche en bonté, car, voyez-vous, il prend plaisir à la miséricorde. C'est là sa merveilleuse gloire. Et dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté. Par l'intermédiaire de la nature, et par des preuves d'un amour plus tendre et plus profond que le cœur humain n'en peut concevoir, il a cherché à se révéler à nous. Néanmoins, tout cela n'est qu'un reflet bien pâle de son caractère. L'ennemi du bien a évidemment aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'il s'approche de Dieu avec crainte et le considère comme un être sévère et implacable. Oui, Satan fait passer notre Père Céleste pour un être d'une justice inflexible, un juge terriblement sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint le Créateur comme observant les hommes d'un œil scrutateur, en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes, afin de les frapper de ses châtiments. C'est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de l'amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Oui, le Fils de Dieu est vraiment descendu du ciel pour révéler le Père. Personne n'a jamais vu Dieu, c'est vrai. Mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. Un de ses disciples lui ayant dit « Mais montre-nous le Père !» Jésus-Christ lui a répondu « Il y a si longtemps !»« Oui, si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, mon cher Philippe !»« Car celui qui m'a vu a vu le Père !»« Comment dis-tu « Montre-nous le Père !» Voici en quelques termes le Seigneur décrit sa mission terrestre. Voici comment il a décrit sa mission. « L'Esprit du Seigneur est sur moi », a-t-il dit, « parce que il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Telle était donc son œuvre. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On pouvait trouver des villages entiers où ne se faisait plus entendre aucun gémissement arraché par la maladie. Il avait passé par là, oui, et il a guéri tous les malades. Son œuvre témoignait de sa divinité. Et l'amour, la miséricorde et la compassion se révélaient dans chacun de ses actes. Son cœur était rempli de tendre sympathie pour les enfants des hommes. Il avait revêtu leur nature afin de subvenir à leurs besoins. Les plus pauvres et les plus humbles ne craignaient pas de l'approcher. Les petits enfants eux-mêmes se sentaient attirés vers lui. Ils aimaient à montrer et à surtout à monter sur ses genoux. Et oui, c'est vrai, vous pouvez même voir des peintures à ce sujet où on voit des enfants monter sur les genoux du Seigneur et à fixer le regard sur son visage pensif où se lisait un amour infini. Oui, Jésus-Christ ne retranchait rien, absolument rien à la vérité, mais il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, ah oui, pas un mot sévère, sans nécessité. Jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible, jamais. Il ne censurait pas la faiblesse humaine, jamais. Et quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la voix. Oui, oui, vous pouvez le croire, car il a pleuré sur Jérusalem, la ville qu'il aimait et qui avait refusé de le recevoir. Lui, le chemin, lui, la vérité, lui, la vie. Elle avait rejeté son sauveur, mais il lui conservait néanmoins sa tendresse et sa pitié. Sa vie était faite de renoncement et de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux, sans se départir jamais de sa dignité divine. Il s'inclinait avec un tendre respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il voyait une âme déchue qu'il devait sauver. Tel est le caractère de Jésus-Christ révélé par sa vie. Tel est aussi le caractère de Dieu le Père. C'est du cœur du Père que les flots de la compassion divine manifestés en Jésus-Christ, vous avez bien entendu, en Jésus-Christ, se déverse sur les enfants des hommes. Jésus-Christ, sauveur tendre et compatissant, était Dieu manifesté en chair. Oui, c'est pour nous racheter, que Christ a vécu, a souffert et qu'il est mort. Il est devenu homme de douleur afin de nous faire participer à la joie éternelle. Dieu a permis à son Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité, de quitter un séjour de gloire ineffable pour venir dans un monde souillé par le péché et assombri par la malédiction et par la mort. Il a consenti à le voir quitter le sein du Père et l'adoration des anges pour venir souffrir l'opprobre, les injures, l'humiliation, la haine et la mort. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, chers amis. Contemplez-le au désert, en Gethsémané, sur la croix. Il est le Fils immaculé de Dieu, chargé du fardeau de nos péchés. Celui qui avait été un avec Dieu, éprouva dans son âme l'horrible séparation que le péché creuse entre l'homme et Dieu. Séparation, chers amis, qui lui arracha ce cri d'angoisse où il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le fardeau du péché, c'est le sentiment de son énormité qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Mais ce grand sacrifice n'a pas été consommé afin de faire naître dans le cœur du Père des sentiments d'amour pour l'humanité déchue et pour le disposer à la sauver. Oh non, non, non! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime, c'est parce que il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde déchu. Et Dieu réconciliait en Christ le monde avec lui-même. Il a souffert avec son Fils, croyez-moi, oh oui, et dans les angoisses de Gethsémané, comme dans la mort du calvaire, c'est le cœur de l'amour infini qui a payé le prix de notre rédemption. Jésus dit « Le Père m'aime ». Oui, il m'aime vraiment parce que je donne ma vie. Je donne ma vie afin de la reprendre. Et en d'autres termes, l'amour que mon Père vous porte est tellement grand qu'il m'affectionne davantage pour avoir consenti au sacrifice de ma vie afin de vous racheter. Je lui suis donc devenu plus cher par le fait que je me suis constitué votre garant, et ceci en déposant ma vie et en prenant sur moi vos dettes et vos transgressions. Car par mon sacrifice, Dieu, tout en demeurant juste, peut justifier celui qui croit en moi. Oui, seul le Fils de Dieu avait le pouvoir de nous racheter. Seul celui qui était dans le sein du Père pouvait le faire connaître. Seul un être connaissant la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pouvait les révéler. Il n'a fallu rien de moins que le sacrifice infini consommé par Jésus-Christ en faveur de l'homme perdu pour exprimer l'amour du Père envers l'humanité déchue. Oh oui, chers amis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné non seulement pour vivre parmi les hommes, pour porter leurs péchés, pour mourir à leur place, mais il l'a donné à une race perdue. Et Jésus-Christ devait donc se solidariser avec les besoins et les intérêts de l'humanité. Celui qui était un avec le Père s'est uni aux enfants des hommes par des liens indissolubles. Oh oui, Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Il est notre propitiation, il est notre avocat et notre frère. Il paraît revêtu de notre humanité devant le trône du Père, et il sera donc pendant toute l'éternité un avec la race humaine qu'il a bel et bien racheté. Alléluia ! Il est et demeurera le Fils de l'homme. Et tout cela afin de relever l'homme de la dégradation du péché, afin de le mettre à même de réfléchir l'amour de Dieu et de participer à la joie de la sainteté. Oui, c'est ça. Le prix payé pour notre rédemption, le sacrifice infini de notre Père Céleste, en livrant son Fils à la mort pour nous, devrait nous donner une haute idée de ce que nous pouvons devenir en Jésus-Christ. Quand il l'est donné à Jean, l'apôtre inspiré de contempler, oui, de contempler la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour du Père envers l'humanité expirante, il est si rempli de sentiments d'adoration et de respect que dans l'impuissance où il se trouve d'exprimer l'intensité et la tendresse de cet amour, il s'écrie « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quelle valeur cet amour donne à l'homme, oui, par la transgression, voyez-vous, les fils d'Adam sont devenus sujets de Satan. Mais attention, par la foi au sacrifice expiatoire du Christ, ils peuvent maintenant devenir fils de Dieu. Ah, ça change tout. Et en revêtant la nature humaine, Jésus-Christ élève l'humanité. Il place l'homme déchu dans une condition où, par la communion avec lui, il peut devenir réellement digne du nom d'enfant de Dieu. Oui, enfant du roi céleste. Quelle précieuse promesse! Thème inépuisable de méditation, l'amour insondable de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas du tout. Un tel amour est sans exemple. Il surpasse celui d'une mère pour son enfant égaré. Sa contemplation subjugue l'âme et rend les pensées captives de la volonté divine. Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous y découvrons de miséricorde, la miséricorde unie à l'équité et à la justice, et plus nous allons discerner les preuves d'une compassion et d'un amour absolument infinis. Chers amis, l'origine, ou si vous voulez, d'origine, l'homme était doué de facultés nobles et d'un esprit bien équilibré. Physiquement parfait et moralement en harmonie avec Dieu, ses pensées étaient pures et ses aspirations saintes. Mais voyez-vous, ces facultés ont été perverties par la désobéissance et l'égoïsme a pris dans son cœur la place de l'amour. Sa nature a été tellement affaiblie par la transgression qu'il lui est devenu impossible par sa propre force de résister à la puissance du mal. Il est devenu captif de Satan et serait à jamais resté en son pouvoir si le Seigneur ne s'était interposé d'une manière spéciale. Le but du tentateur était de frustrer le dessein de Dieu en créant l'homme et de couvrir la terre de ruines et de désolation. Cela fait, il se proposait de citer ces ruines comme la conséquence de la création de l'homme. Dans son état d'innocence, l'homme devait donc, dans une heureuse communion avec celui dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, oui, il devait donc s'approcher encore davantage de son Sauveur. Mais après son péché, ne trouvant plus son plaisir dans la sainteté, eh bien, il voulut se cacher loin de la présence de Dieu. Et telle est encore aujourd'hui la condition du cœur irrégénéré qui n'est pas régénéré. Il ne bat pas à l'unition avec celui de Dieu et il ne trouve par conséquent aucune jouissance dans sa communion. Le pécheur ne connaîtrait pas le bonheur en la présence de Dieu, la société des êtres saints lui serait intolérable, et s'il lui était permis de franchir le seuil du ciel, il serait malheureux. L'esprit de complet désintéressement qui règne en ce lieu, où tous les êtres sont en harmonie avec l'amour infini, ne ferait vibrer dans son cœur aucune corde sensible. Oui, ses pensées, ses intérêts, ses mobiles seraient en opposition avec ceux qui sont à la base de tous les actes des êtres purs qui y demeurent. Il serait donc une note discordante dans la mélodie du ciel. Ce n'est pas un décret arbitraire de la part de Dieu qui exclut les méchants du ciel. Oh non, ils se sont exclus eux-mêmes par leur incapacité de jouir de la compagnie de ses habitants. La gloire de Dieu serait pour eux un feu dévorant. Ils accueilleraient avec joie la destruction pour échapper à la présence de celui qui est mort pour les racheter. Il nous est donc impossible par nous-mêmes de nous arracher à l'abîme de péché dans lequel nous sommes plongés. Nos cœurs sont mauvais et nous sommes incapables de les changer par nous-mêmes. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce que elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'éducation, la culture, l'intellectuel, l'exercice de la volonté, les efforts humains ont tous leur sphère légitime. Mais ici, ils sont impuissants. Ils peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite. Ils ne sauraient changer le cœur ni purifier les sources de la vie. Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans. Oui, du dedans. Une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Et cette puissance, c'est évidemment Jésus-Christ. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et attirer celle-ci vers Dieu et vers la sainteté. Le Sauveur a dit « Nul s'il ne naît d'en haut, s'il ne reçoit un cœur nouveau et des aspirations nouvelles » qui l'entraîne vers une nouvelle vie, ne peut voir le royaume de Dieu. La notion d'après laquelle il suffirait à l'homme de travailler à développer le bien qui est en lui par nature est une erreur absolument fatale. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ne t'étonne donc pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il est écrit touchant Jésus-Christ, le Verbe, la Sainte Parole, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Son nom est le seul qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il ne suffit pas d'entrevoir la bonté de Dieu, sa bienveillance, sa tendresse paternelle. Il ne suffit pas de discerner la sagesse et la justice de sa loi, de constater qu'elle est fondée sur le principe éternel de l'amour. L'apôtre Paul avait connaissance de tout cela quand il disait « Je reconnais que la loi est bonne, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Mais il ajoutait dans l'amertume de son désespoir « Je suis charnel, vendu au péché. » Il soupirait après une sainteté et une justice qu'il se sentait incapable de réaliser. Et il s'écriait « Malheur, malheureux homme que je suis, oui, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Tel est le cri qu'on poussait en tout temps et en tout lieu, les âmes écrasées par le sentiment du péché. Pour tous, il n'y a qu'une seule réponse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Contemplez-le. Nombreuses sont les images par lesquelles l'Esprit de Dieu s'est efforcé d'illustrer cette vérité afin de la rendre claire aux âmes qui désirent être affranchies du fardeau de la culpabilité. Jacob, après avoir trompé Ésaü, s'éloigna de la maison paternelle, accablé, après, avec un sentiment profond de sa faute, on peut bien le dire. Aussi exilé et ensuite solitaire, il était banni loin de tout ce qui avait donné du prix à sa vie, ce qui l'accablait. C'était le sentiment que son péché l'avait donc privé de la communion de Dieu et qu'il était abandonné du ciel. Entouré de collines silencieuses, la voûte étoilée au-dessus de sa tête, il se couche désolé sur le sol nu pour y passer la nuit. Et pendant son sommeil, il voit une lumière s'élever, oui, une lumière, une vaste échelle nuageuse qui semble en quelque sorte conduire à la porte même du ciel. Et sur cette échelle montant et descendent des anges de Dieu. Ils montent et ils descendent. Ils écoutent donc, et du milieu de la gloire céleste, il entend la voix divine qui lui fait entendre un message de consolation et d'espérance. C'est donc ainsi que Jacob a appris à connaître ce qui répondait aux besoins et aux soupirs de son âme. Il a donc compris qu'il avait un sauveur. Et plein de joie et de reconnaissance, il a vu le chemin par lequel il pouvait, lui, pécheur, retrouver la communion de Dieu. L'échelle mystique de sa vision représente Jésus-Christ, le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et dans sa conversation avec Nathanaël, le Christ se servit de la même image. « Vous verrez, dit-il, désormais, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Par son apostasie, l'homme était séparé de Dieu, la terre avait divorcé d'avec le ciel à travers l'espace qui les séparait, les communications étaient donc devenues impossibles. Mais grâce à Jésus-Christ, la terre a été de nouveau reliée au ciel. Par ses mérites, le Sauveur a jeté un pont sur l'abîme creusé par le péché, de sorte que les anges peuvent communiquer avec l'homme. par Jésus-Christ, l'homme déchu, faible et impuissant, a pu de nouveau avoir accès à la source de la puissance infinie. Mais c'est en vain que l'humanité rêve de progrès, oui, en vain qu'elle travaille à son relèvement, si elle néglige cette source unique d'espérance et de salut qui lui est offerte, alors là, toute grâce excellente et tout don parfait précède vraiment de Dieu. Il faut qu'il comprenne cela. Il n'y a pas hors de Dieu de véritable excellence de caractère. Et le seul chemin qui mène à Dieu, c'est bel et bien Jésus-Christ. Car il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le cœur de Dieu déborde pour ses enfants terrestres d'un grand amour, d'un amour plus fort que la mort. En sacrifiant son Fils, il a déversé tout le ciel en notre faveur. La vie, la mort et la médiation du Sauveur et bien sûr, le ministère des anges, les appels de l'Esprit-Saint, le Père agissant au-dessus de tous et par le moyen de tous, l'intérêt incessant des êtres célestes, tout est donc mis à réquisition en vue de la rédemption de l'homme. Oh, mes chers amis, arrêtons nos regards sur le prodigieux sacrifice consommé pour nous. Essayons un peu de nous rendre compte de la somme d'énergie et de labeur que dépense le ciel en vue de ramener les égarés à la maison du Père. Des mobiles plus forts et des agents plus puissants n'auraient jamais pu être mis en activité. La récompense inouïe réservée en quelque sorte à ceux qui font le bien entendu, et les jouissances du ciel, la compagnie des anges, la communion et l'amour de Dieu et de son Fils bien-aimé, le perfectionnement et le développement de toutes nos facultés à travers les siècles éternels, ne sont-ce-là pas des encouragements suffisants pour nous pousser à rendre à notre Créateur et Rédempteur le service affectueux de nos cœurs? Et d'autre part, les jugements de Dieu, les jugements prononcés contre le péché, la rétribution inévitable, la dégradation de notre caractère et la destruction finale sont décrits dans la parole de Dieu pour nous mettre en garde contre quoi ? Contre les pièges de l'ennemi. Ne nous inclinerons-nous pas humblement, chers amis, devant la miséricorde de Dieu? Qu'aurait-il pu faire de plus pour nous? Entrons un peu en rapport avec celui qui nous a aimés d'un amour incommensurable et profitons des moyens qui nous sont offerts pour nous transformer à l'image du Christ et nous faire rentrer dans la communion des anges, ainsi que dans la faveur et dans la communion du Père et de son Fils bien-aimé. Essayons donc de comprendre, chers amis, comment un homme peut parvenir à être droit devant Dieu. Oui, comment un pécheur sera-t-il rendu juste? Ce n'est que par Jésus-Christ qu'il est possible de se mettre en règle avec Dieu, de parvenir à la sainteté. Mais comment aller à Christ? Ils sont nombreux, ceux qui, de même que la multitude convaincue de péché au jour de la Pentecôte, s'écrient « Que ferons-nous ? » Les premiers mots de l'apôtre Pierre en réponse à cette question furent « Repentez-vous ». Un peu plus tard, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la culpabilité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Oui, ils sont nombreux, ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Nombre de personnes gémissent sur leur péché et se réforment même extérieurement parce que elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est regretter, c'est déjà pas mal évidemment, c'est de regretter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il a vu qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînesse. Balaam a été terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas chez lui un repentir véritable de ses péchés, pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Et Judas Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'écria « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Et cette confession était arrachée à son âme coupable uniquement par le sentiment terrible de sa condamnation et par la perspective redoutable du jugement de Dieu. Les conséquences de son crime le remplissaient de terreur, bien sûr, mais il n'y avait chez lui aucun remords profond, aucun déchirement d'avoir trahi l'innocent Fils de Dieu et renié le Saint d'Israël. De même, au moment où les jugements de Dieu s'apesantissaient sur lui, Pharaon, souvenez-vous, reconnaissait son péché. Mais ce n'était que pour échapper au châtiment, car dès que les plaies se sont éloignées, il recommençait à braver le ciel. Et comment ? Tout cela déplorait les conséquences de leur péché, c'est vrai. Mais ils ne s'attristaient pas du tout, sur ses péchés eux-mêmes. Voyez-vous, c'est trop facile de simplement dire à la façon anglaise ou américaine « Oh, I am sorry ». Par contre, quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveille et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu, loi qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. La lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, illumine les replis les plus secrets de son âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres, la conviction du péché s'empare alors de son esprit et de son cœur, et saisi du sentiment de la justice de Yahvé l'Éternel, le pécheur est terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté et la joie de la pureté. Il désire être purifié et rentrer en communion avec le ciel. La prière de David, après sa chute, peut illustrer, en quelque sorte, le véritable, l'absolu repentir. Elle n'était nullement dictée, croyez-moi, par le désir d'échapper au jugement qui allait le frapper, mais pas du tout, car son chagrin fut sincère et profond. Il ne chercha pas à pallier sa culpabilité. Il voyait l'énormité de sa transgression, la souillure de son âme. Il abhorrait son péché. Ce n'est pas le pardon seulement qu'il demandait, mais il a demandé la pureté du cœur. Il soupirait après la joie de la sainteté et la communion avec son Dieu. Voici comment il s'exprime au psaume chapitre 32 et 51. Il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de réaliser une telle repentance, pas du tout. On ne la reçoit que de notre Seigneur qui est monté au ciel et qui a fait des dons aux hommes. Or, c'est précisément ici que plusieurs sont dans l'erreur, ce qui les prive de l'aide que le Christ désire leur accorder. Ils pensent ne pas pouvoir venir à Jésus-Christ avant de s'être repenti et que la repentance se prépare au pardon des péchés. Il est vrai que la repentance précède le pardon, bien sûr, car seul un cœur humilié et contrit éprouve le besoin d'un sauveur. Mais le péché doit-il attendre de s'être repenti avant de venir à Jésus-Christ? Est-ce que le pécheur qui a péché, qui a commis des choses contraires à l'enseignement de la parole de Dieu, doit-il donc attendre? Eh bien, la nécessité de la repentance doit-elle, chers amis, être élevée comme un obstacle entre le pécheur et son sauveur? Eh bien, l'Écriture sainte n'enseigne nulle part que le pécheur doive se repentir avant de répondre à cette invitation du Christ. « Venez à moi, est-il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une vertu émanant de Jésus-Christ qui nous donne la véritable repentance. L'apôtre Pierre a éclairci cette question quand il a fait aux Israélites cette déclaration. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Il n'est pas plus possible de se repentir sans avoir la conscience réveillée par l'Esprit du Christ que d'obtenir le pardon sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule source de tout bon sentiment, et c'est lui seul qui peut mettre dans nos cœurs l'horreur du péché. Chaque aspiration vers la vérité et la pureté, chaque conviction de notre péché est une preuve de l'opération du Saint-Esprit sur notre cœur. Jésus-Christ a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il faut qu'ils soient révélés aux pécheurs, comme le Sauveur qui est mort pour les péchés du monde. » Car c'est la contemplation de l'agneau de Dieu sur la croix du calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption et la bonté de Dieu qui éclate nous amène à la repentance. Oh oui, et en mourant pour les pécheurs, eh bien Christ a manifesté un amour incommensurable et on peut dire aussi incompréhensible. Or, la contemplation de son merveilleux amour touche nos cœurs, frappe l'esprit et brise toute résistance. Voyez-vous, il arrive à l'homme d'être confus de ses péchés et de délaisser certaines mauvaises habitudes. Et ceci avant d'être conscient de la puissance d'attraction de Jésus-Christ. Mais chaque tentative de réforme basée sur un désir sincère, oh oui, absolument sincère, de bien faire, eh bien, c'est le résultat de cette puissance d'attraction. Une influence dont il ne se rend pas compte agit donc sur son âme et ranime sa conscience et amende sa conduite extérieure. Et à mesure, chers amis, que le Sauveur attire ses regards sur la croix et lui fait contempler celui que ses péchés ont percé, les commandements de Dieu parlent donc en ce moment-là à sa conscience. Il se rend donc compte de la méchanceté de sa vie. Il comprend que le péché a jeté de profondes racines dans son cœur. Et il commence à entrevoir la justice de Jésus-Christ. Et il s'écrie « Quelle n'est pas la noirceur du péché, puisqu'il a fallu un tel prix pour la rédemption de ses victimes ?» Oui, tout cet amour, toutes ces souffrances, toute cette humiliation était-il vraiment nécessaire pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle? Le pécheur peut résister à cet amour, il peut refuser de se laisser attirer par le Sauveur, mais s'il ne résiste pas, il sera attiré vers lui, et la connaissance du plan du salut l'amènera au pied de la croix, regrettant les péchés qui ont causé les souffrances du bien-aimé Fils de Dieu. Le même esprit de Dieu, chers amis, ce même esprit qui agit dans la nature est aussi celui qui parle au cœur de l'homme et il fait naître un besoin inexprimable de quelque chose qu'il ne possède pas. Les choses du monde ne peuvent le satisfaire jamais, et l'Esprit de Dieu plaide avec lui pour le pousser en quelque sorte à chercher ce qui seul peut procurer la paix et le repos, c'est la grâce de Jésus-Christ, la joie de la sainteté. Et par des intermédiaires visibles et invisibles, notre Sauveur s'efforce sans cesse de détourner nos pensées des vains plaisirs du péché pour les attirer sur les bénédictions infinies que nous pouvons obtenir en lui. C'est à toutes les âmes, absolument à tous, qui ont cherché en vain à se désaltérer aux citernes crevassées du monde, que ce message, chers amis, ce message divin est maintenant adressé. Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Vous qui soupirez en votre cœur après une vie meilleure que celle que le monde peut vous offrir, reconnaissez dans ce désir la voix de Dieu parlant à votre âme. Demandez-lui, oui, demandez-lui simplement de donner la repentance, de vous révéler Jésus-Christ dans son amour infini, sa pureté absolue. Les principes de la loi divine, amour de Dieu et amour du prochain, furent parfaitement illustrés par la vie du Sauveur. Un amour et un désintéressement parfait, ainsi peut se résumer sa vie. C'est quand on contemple Jésus-Christ, quand les rayons de lumière émanent de lui, descendent sur nous, que nous nous rendons compte de la noirceur de notre cœur. Nous pouvons, comme Nicodème, nous bercer de l'illusion que notre vie a été régulière, que notre moralité n'a rien laissé à désirer, et en conclure que nous n'avons pas lieu de nous humilier devant Dieu comme de vulgaires pécheurs. Mais attention! Quand la lumière de Jésus-Christ brillera dans notre âme, nous verrons combien nous sommes impurs, nous discernerons l'égoïsme de nos mobiles et l'inimitié contre Dieu qui a souillé tous les actes de notre vie. Nous comprendrons alors que notre justice est véritablement comme le linge le plus souillé et que seul le sang de Jésus-Christ peut nous purifier de la souillure du péché et transformer nos cœurs à sa ressemblance. Un rayon de la gloire de Dieu, une lueur de la pureté de Jésus-Christ, pénétrant notre âme, en fait douloureusement et nettement ressortir chaque tache. Il met en évidence la difformité et les défauts du caractère humain, les désirs non sanctifiés, l'incrédulité du cœur, l'impureté des lèvres et les actions déloyales du pécheur, actions qui outragent la loi divine, éclatent à ses yeux. Et son esprit est humilié. Il est affligé sous l'influence scrutatrice de l'Esprit de Dieu et il se prend en dégoût en présence du caractère pur et immaculé de Christ. Et quand le prophète Daniel contempla la gloire dont était entouré le messager céleste qui lui était envoyé, il a été comme anéanti par le sentiment de sa faiblesse et de son imperfection. Voici, en quelques termes, il décrit, dans des termes que je vais vous dire, qu'il a décrit l'effet qu'a produit sur lui cette contemplation. Il a dit « Je restais seul et j'ai vu cette grande vision et les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. » Et je perdis toute vigueur. L'âme ainsi touchée éprouvera une profonde aversion de son amour du moi et recherchera par la justice du Christ la pureté du cœur qui est conforme à la loi de Dieu et au caractère de Christ. L'apôtre Paul, parlant de sa conduite extérieure, se disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais quand il discerna la spiritualité de la loi, il se vit pécheur. Et à se juger par la lettre de la loi, en l'appliquant seulement aux actes extérieurs comme peuvent le faire les hommes, il se trouvait sans péché. Mais quand il a plongé ses regards dans les profondeurs des saints préceptes, et il s'est vu donc tel que Dieu l'a bel et bien vu, et il a dû baisser la tête, il a dû confesser sa culpabilité. Étant autrefois sans loi, dit-il, je vivais, mais quand le commandement vint, là, le péché reprit vie, et moi, je suis donc mort au péché, enfin. Et en présence de la spiritualité de la loi, le péché lui apparut donc dans toute son horreur, et la bonne opinion qu'il avait de lui-même avait donc à ce moment-là disparu. Plus de bonnes idées sur soi-même, plus de soi-disant noblesse, de pureté sur soi-même qui n'existait pas. Et Dieu ne considérait pas tous les péchés comme également odieux. Heureusement pas. Il y a pour lui, comme pour les hommes, différents degrés de culpabilité. Mais quelque insignifiant que puisse paraître tel ou tel péché aux yeux de l'homme, il n'est jamais petit aux yeux de Dieu. C'est là la différence. Le jugement de l'homme est partial, imparfait, tandis que le Seigneur estime toutes choses à leur juste valeur. L'ivrogne est regardé avec mépris. On lui déclare que son péché l'excluera du royaume des cieux. Mais on est souvent beaucoup moins sévère envers l'orgueilleux, l'égoïste et celui qui convoite. Et pourtant, ce sont là des péchés particulièrement odieux au regard du Seigneur. Ils sont contraires à la bonté de son caractère, à l'amour parfaitement désintéressé qui est l'atmosphère dans laquelle se meuvent les mondes qui ont conservé leur intégrité. Oui, celui qui tombe dans quelque faute grossière, il peut avoir le sentiment de son humiliation, de sa pauvreté, de son besoin d'un sauveur. Et l'orgueilleux n'éprouve donc aucun besoin, car il ferme son cœur au Christ et se prive des bienfaits infinis qu'il est venu nous apporter. Le pauvre péager qui faisait cette prière, souvenez-vous, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur », se considérait comme bien mauvais. Et ceux qui le connaissaient n'avaient pas meilleure opinion de lui, mais il avait le sentiment de sa misère. Et sous le poids de sa culpabilité et de son opprobre, il se présenta devant Dieu pour implorer sa miséricorde. Heureusement, et son cœur était ouvert à l'action de l'Esprit-Saint de Dieu qui pouvait l'affranchir du péché. Si vous voyez votre état de péché, n'attendez pas de vous être rendu meilleur par vous-même. Combien ils sont nombreux ceux qui pensent n'être pas assez bons pour aller à Christ. Vous imaginez-vous devenir meilleur par vos propres efforts? Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? C'est en Dieu seul qu'est notre secours. Oh oui, n'attendons donc pas que la conviction devienne plus forte ou que l'occasion soit plus favorable ou bien encore que nous soyons moins mauvais. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Absolument rien. Il faut aller vers Christ, tel, vraiment tel que nous sommes. Mais que nul ne se séduise par la pensée que Dieu, dans son grand amour, sauvera même ceux qui méprisent sa grâce. Attention, ce n'est qu'à la lumière de la croix qu'on peut voir le caractère excessivement odieux du péché. Que ceux, chers amis, qui pensent qu'ils n'ont aucun péché, eh bien, fassent bien attention, car ce sera terrible le jour où ça deviendra trop tard de s'en rendre compte. Les impénitents s'excusent parfois en disant des chrétiens « Je suis aussi bon qu'eux ». Oh oui, ils ne sont pas plus désintéressés, pas plus sobres, pas plus circonspects dans leur conduite que moi. Ils se retranchent ainsi derrière les fautes d'autrui. Mais ça suffira pas de se retrancher derrière les fautes des autres, même s'ils vont tous les dimanches à l'église. Car les défauts et les péchés des autres ne justifieront absolument personne, car le Seigneur ne nous a pas donné un modèle humain et absolument imparfait, mais pas du tout. L'Immaculé Fils de Dieu nous a été donné pour nous servir d'exemple. Et ceux qui se plaignent de la mauvaise conduite des chrétiens sont précisément ceux qui devraient, par une vie plus noble, donner un meilleur exemple. Si leur conception d'un chrétien est si élevée, eh bien leur péché n'est-il pas d'autant plus grand? Ils connaissent le bien et ils refusent tout simplement de faire le bien. Prenons donc garde de ne pas temporiser. Ne renvoyez pas le moment de délaisser vos péchés et de rechercher en Christ la pureté du cœur. C'est précisément, oui précisément ici, que des milliers de personnes ont commis une erreur fatale. Je n'insisterai pas sur la brièveté et l'incrédulité de la vie, hein, et l'incertitude surtout de la vie, car c'est très incertain, notre vie. Mais il y a un terrible danger, oui, un danger trop peu compris, à tarder de répondre aux appels pressants du Saint-Esprit, car en réalité, ce délai est une décision de vivre dans le péché. Ce n'est qu'au péril de son âme qu'on peut tolérer un péché, quelque petit qu'il puisse paraître, et ce que nous ne vaincrons pas, eh bien croyez-vous, un jour ou l'autre, nous vaincra et deviendra l'artisan de notre ruine. C'est aussi simple que cela, croyez-moi. Il n'y a pas de ci, de là, hein, il n'y a pas deux mesures, mais c'est très sérieux. Voyez-vous, plusieurs personnes acceptent une religion intellectuelle. Ils acceptent une forme de piété, alors que le cœur n'est pas purifié. Que votre prière constante soit « Créez en moi, Seigneur, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Agissez droitement avec votre âme. Soyez aussi sincère, aussi persévérant que si votre vie présente était en jeu. Et c'est une question, à mon avis, à décider entre Dieu et votre âme, à décider même pour l'éternité. Étudiez la parole de Dieu dans la prière. Cette parole vous présente dans la loi divine et dans la vie de Jésus-Christ les grands principes de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Elle convainc de péché et elle révèle clairement le chemin du salut. Prenez-y garde, chers amis, c'est la voix de Dieu parlant à votre âme. Quand vous verrez l'énormité du péché et quand vous vous verrez tel que vous êtes vraiment, ne vous laissez pas aller au désespoir. C'est pour sauver des pécheurs que Jésus-Christ est venu en ce monde. Et il est venu surtout pour ceux qui en ont besoin, pas pour ceux qui sont les propres justes et qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Nous n'avons pas à apaiser Dieu envers nous puisque, ô amour insondable, c'est Dieu qui réconcilie en Christ le monde avec lui-même. Il attire, par son tendre amour, le cœur de ses enfants égarés. Il n'est pas de parents terrestres qui sachent manifester envers leurs enfants la patience que Dieu exerce envers ceux au salut desquels ils travaillent. Nul ne pourrait plaider avec plus de tendresse auprès du transgresseur. Jamais lèvres humaines n'ont adressé aux égarés, ceux qui étaient perdus, des supplications plus aimantes. Toutes ces promesses, tous ces avertissements ne sont que les manifestations d'un amour indicible. Quand Satan vient pour vous dire que vous êtes un grand pécheur, élevez vos regards sur votre Rédempteur et parlez de ses mérites. Ce qui vous aidera sera de chercher sa lumière. Et reconnaissez votre péché, mais dites à l'ennemi que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et que vous pouvez être sauvés par son amour infini. Christ raconta à Simon l'histoire de deux débiteurs. L'un devait à son maître une bagatelle, mais l'autre, il devait une forte somme, oh oui, des centaines de milliers, des milliers d'euros. Mais il a remis à l'un et à l'autre complètement leur dette. Et puis Christ, Jésus, a demandé à Simon, « Mais quel est celui des deux débiteurs qui aimerait ou qui aime le plus son maître ? Lequel des deux ?» Eh bien, Simon n'a pas eu de difficulté à répondre. Un gamin aurait pu le faire. C'est celui, je pense, auquel il a le plus remis, à celui à qui il a remis des centaines de milliers d'euros. Nous avons été de grands pécheurs, chers amis, mais Christ est mort pour nous assurer le pardon. Il est venu et il a tenu parole. Les mérites de son sacrifice sont suffisants pour nous réconcilier avec le Père. Et ceux auxquels il a le plus pardonné l'aimeront le plus et se tiendront le plus près de son trône pour le louer de son grand amour et de son sacrifice infini. Moi, personnellement, j'ai plus de plusieurs millions d'euros que je lui dois, car j'ai vraiment dans le cœur, reçu dans le cœur, que je lui dois une grande dette. Mais il m'a pardonné, et je suis heureux et reconnaissant. Et ce n'est que par une connaissance plus profonde de l'amour de notre Dieu que l'on se rend mieux compte, vous et moi, de la malignité du péché, du malheur du péché. Et quand nous comprendrons, chers amis, vous et moi, le sacrifice infini de Christ en notre faveur, alors là, chers amis, notre cœur se fend de tendresse et même de douleur. Certains d'entre nous auront des larmes, et moi y compris, croyez-moi. Je voudrais vous donner juste quelques petites pensées sur la prière qui vous aideront de prier comme un enfant, tout simplement, vous approcher de Christ. Prier, c'est prononcer sans cesse et avec amour, au plus profond de nos cœurs, un seul nom, c'est Jésus-Christ. Prier, c'est avant tout, et du matin au soir, parler avec Jésus de tout ce qui nous préoccupe. Prier, c'est entrer dans la présence du Père avec Jésus-Christ, mon frère aîné, qui intercède pour moi chaque jour. Qu'est-ce qu'il puisse lui refuser ? Dieu ne lui refusera jamais rien. À son Fils bien-aimé, Prier, c'est pouvoir tout dire à celui dont l'amour est sans borne et la puissance illimitée. Que pourrait-il nous manquer? Prier, oui, c'est présenter au Père les meurtrissures de son Fils bien-aimé. Quelle prière, faisant appel à ces meurtrissures de l'agneau frappé pour notre rédemption, resterait inexaucée. Et pour terminer, prier, c'est déchancher son cœur dans une confiance illimitée en l'amour paternel de Dieu le Père, puis poursuivre sa route joyeusement comme un enfant. Chers amis, nous allons nous quitter maintenant et souvenez-vous que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut jamais oublier. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez donc bénis et à bientôt à nouveau parce que cette série « J'ai choisi le Christ » est encore longtemps pas terminée. À bientôt à nouveau. Au revoir, très chers amis.